Laurent Despiez, bonjour.
Bonjour.
Président de la FDSEA des Alpes-de-Haute-Provence. En cette année 2023, comment va l'agriculture basalpine? Comment se porte-t-elle? Comment vont les filières?
Alors écoutez, en ce moment, j'allais dire, l'ambiance est très morose sur plusieurs filières, sur l'agriculture en général. Je prends les trois exemples. Je pense à l'arboriculture, par exemple, où on vit une crise énergétique très forte avec le prix de l'électricité. On a une crise économique avec des prix qui sont au plus bas. Vous avez vu qu'il y a eu une manifestation la semaine dernière avec des pommes qui rentrent à quasiment 20 centimes le kilo. On a une crise, par exemple, sur la lavande avec des volumes excédentaires, avec des problèmes de prix là aussi et pas de vente d'huile essentielle. On a des situations sur l'élevage qui sont entre le loup, les problèmes de chiens de protection, les problèmes aussi de parfois et très souvent sur les paiements des mesures loup avec les retards des services de l'État qui font que on a quand même, sans parler des problèmes de tension sur les problèmes de main d'œuvre. On sait qu'on a une situation qui est complexe, mais je pense comme toutes les entreprises françaises actuellement, quoi. Je crois que tout le monde est logé à la même enseigne.
L'agriculture paye-t-elle? C'est-à-dire l'agriculture a-t-elle un prix rémunérateur?
Non, aujourd'hui, on est le seul métier au monde où on considère qu'on peut nous payer en dessous des coûts de production ou nous payer juste au prix des coûts de production. C'est-à-dire toutes les autres, quand vous achetez n'importe quel produit, je prends par exemple votre smartphone, votre voiture, il y a toujours un coût de production. Derrière, on y met du marketing, la communication. Il y a une valeur ajoutée qui est mise au produit. Et l'agriculture, tout le monde veut la payer pas cher, veut qu'elle soit de qualité, mais personne ne comprend que pour que ce soit bon, il faut y mettre les moyens et les moyens passent par le prix.
C'est qui tout le monde? C'est la grande distribution? Ce sont les clients, les consommateurs?
Je pense que c'est un peu, pour moi, le consommateur est le premier artisan aujourd'hui du geste politique de mettre le prix sur les produits. Mais je pense que le jeu n'est pas joué très souvent par la grande distribution sur la manière de communiquer. Je veux dire, quand on va dans les supermarchés essayer de trouver des produits France, très souvent, vous tournez un petit moment avant de savoir déjà si c'est des produits locaux. Si c'est français, très souvent quand même on a un affichage qui est multiple pour essayer de créer de la confusion. Et je crois que non, la grande distribution aujourd'hui ne joue pas le jeu, notamment Monsieur Leclerc qui se fait le ministre de l'Agriculture et le ministre des Consommateurs et qui aujourd'hui est surtout le ministre de la grande distribution, je pense.
Le gouvernement va présenter son plan anti-sécheresse avec un objectif qui est de quantifier notamment la diminution du volume d'eau, 10% de moins de volume d'eau prélevée dans nos sous-sols d'ici la fin du quinquennat. Qui doit faire cet effort, Laurent Despiez? Les particuliers, les agriculteurs, les distributeurs d'énergie, comme par exemple pour le lac de Serre-Ponçon?
Je crois que c'est divers parce que le lac de Serre-Ponçon a quand même démontré toute sa force durant la sécheresse. Même si on a eu des problèmes, nous avons tenu. Je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que cette gestion doit être collective. Ce qui pose problème sur l'eau, c'est qu'aujourd'hui, on a mis des contraintes sur le monde du tourisme, notamment dans les Hautes-Alpes. On a mis des contraintes sur le monde agricole dans le 04, le 05 et il y a eu des gestions, quoi, il y a eu des mises en place de dispositifs de crise. Le problème, c'est que quand on vous dit vous ne pouvez pas arroser des jardins partagés, vous ne pouvez pas travailler avec des pédalos, mais qu'on autorise d'utiliser de l'eau pour nettoyer les bateaux à Saint-Tropez, pour arroser les golfs, ou quand vous voyez d'ailleurs dans les Bouches-du-Rhône, où personne n'a manqué d'eau, je pense qu'il faudra que les grandes métropoles, les gros départements de notre région aussi, comprennent qu'il faut qu'il y ait des mesures qui soient régionalisées. On ne peut pas demander qu'aux petits départements du 04, du 05, et aux filières du tourisme et de l'agriculture, ou aux gens de ces territoires, de faire à eux seuls, les efforts. Ça devrait être collectif.
Il y a des espoirs quand même. Le préfet de région s'est saisi de cette problématique. C'est Victor Berenguel, le président du SMEDECEP, qui l'annonçait en disant aujourd'hui, on arrive mieux à parler maintenant entre l'amont et l'aval.
Oui, mais je pense que de toute façon, en période de crise, lorsqu'on fait les efforts de se parler, on s'écoute, on se comprend. Mais c'est vrai que là, c'était une vraie première. C'est la première fois qu'on a une crise automnale, hivernale, printanière et donc une crise terrible l'été. Donc maintenant qu'on a vécu ça, on peut, je pense qu'on a une estimation déjà des besoins. C'est-à-dire, il faut voir comment on peut les répartir. Je pense que l'agriculture, on a une force nourricière, donc ça veut dire qu'on doit rester prioritaire. Mais après, il faut aussi comprendre que l'eau est un bien universel et que nous devons tous faire des efforts et trouver les moyens de pouvoir le gérer. Après, je reviens sur ce que je vous dis, c'est la définition des priorités. Si on dit qu'il faut arrêter l'eau pour l'agriculture, je pense qu'il faut qu'on comprenne aussi que jouer au golf n'est peut-être pas une priorité. Et ou arroser des bateaux de plaisance.
Le gouvernement... Le gouvernement veut tenir son calendrier quant au transfert de la gestion de l'eau qui va passer des communes aux intercommunalités. Dernier CARA, ce sera 2026. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, il y a Durance, Luberon-Verdon, Agglomération et Provence-Alpes Agglomération qui ont déjà effectué ce transfert. En quoi ça peut être une chance pour les agriculteurs alors que très souvent les communes sont arc-boutées?
On a des élus quand même, moi je trouve, dans le département des Alpes-de-Provence, qui ont une fibre très rurale et très agricole, avec qui on a un vrai dialogue et avec qui on parle et on travaille en amont. Je pense qu'on a aussi les services de l'État, faut le dire, avec Éliane Marais qui ont fait les assises de l'eau et qui ont décidé de prendre le problème en amont et d'essayer de voir comment tous ensemble nous pouvons bosser ensemble. Et je crois que le dispositif qui est en train de se réfléchir ou nous nous mettons tous autour de la table pour travailler le sujet, sera toujours plus efficace et nous permettra d'anticiper, par exemple, peut-être de réfléchir sur des rotations avec des cultures, si nous voyons que la situation se complique, de dire, à tel moment, on va faire moins de cultures consommatrices d'eau, comment on répartit sur les priorités pour que les filières puissent, par exemple, compenser, je pense notamment à l'élevage, en disant, vous pouvez arroser des sorgho fourragers, mais pas les prairies, vous voyez, mais ça nous permettra vraiment en amont de travailler sur les dispositifs qui permettront de consommer moins d'eau et de bien le préparer pour ne pas subir la situation et la vivre comme l'année dernière avec une détresse et des problèmes de coûts de production où on avait installé des cultures qu'on ne pouvait plus arroser, vous voyez par exemple.
Alors le plan loup, vous en parliez en tout début d'interview, le plan loup qui va arriver à sa fin 2018-2023, le gouvernement l'a réévalué plusieurs fois, a réévalué son plafond, a requantifié la population lupine, 783 loups en 2022 contre 624 estimés au départ. Vous iriez jusqu'à dire que ce sont des ajustements à la marge ?
Ah oui, non mais on va se dire les choses. Hein. Sur le loup, on se fout de nous. On nous ment sur le nombre de loups. Je vous l'avais dit la dernière fois, la question n'est pas de savoir si on éradique ou pas le loup. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une cohabitation qui se fasse. Et pour que la cohabitation puisse se faire, il faut donner le moyen aux éleveurs de pouvoir se protéger. Et là-dessus, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu très récemment, on a eu l'épreuve, une vidéo d'un ancien de l'ONCFS qui annonce que le loup, de toute façon, a été réintroduit. Et a été reintroduit avec la caution de l'ONCFS, donc l'ancienne OFB aujourd'hui. On voit que tout est fait pour nous ralentir dans la litière de défense. Il faut impérativement qu'au niveau européen, le loup soit déclassé, non pas pour l'éradiquer, parce que c'est hors de question d'éradiquer là-dessus le loup. Vous n'entendrez jamais avoir ce discours. Mais il faut au moins donner ou les moyens aux chasseurs de pouvoir réguler, ou donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir se défendre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudra bientôt qu'on réfléchisse plus à un plan de sauvegarde du pastoralisme et de l'élevage dans lequel on imbrique le loup plutôt que de faire qu'un plan loup, parce qu'on voit que le loup est partout. Je veux dire, nous, on a découvert une meute à côté de Forcalquier où on en a 11 ou 12 qui ont attaqué un agriculteur donc au mois de décembre. L'autre jour, on me disait qu'il y avait un loup qui avait à 8 heures du matin traversé la commune de Manne. Vous voyez, l'autre jour, il y en a un qui a été filmé dans je sais plus quelle commune, je crois dans le 05, tranquillement dans un autour des maisons. Je pense que voilà, il faut qu'il y ait des mesures qui permettent de simplifier les choses. Et surtout dans le plan loup, ce qu'il faut prendre en compte, c'est un, toutes les autres détresses, c'est ce que je vous disais, les enjeux des chaînes de protection, parce qu'aujourd'hui, c'est les éleveurs qui en pâtissent, et que l'État prenne ses responsabilités au travers des financements des mesures loup, c'est-à-dire que les agriculteurs sont payés en temps et en heure. Aujourd'hui, ils ont 18 mois de retard pour payer les éleveurs.
Merci beaucoup Laurent Despied d'avoir été avec nous, président de la FDSEA des Alpes-de-Provence. J'en profite pour simplement signifier que ce vendredi 27 janvier à 18h30 au cinéma CGR Manosque, diffusion du documentaire Mission Régénération de Josh et Rebecca Tickel qui ont reçu de nombreux prix autour des préoccupations agricoles. Vous y serez notamment aux côtés de Laurent Vinciguerra, directeur général SAFER PACA.